À voix nue. Cette semaine, Antoine Guillot rencontre Jean-Marc Rochette. Ce soir, comme une balle dans un canon.
Bonsoir Jean-Marc Rochette.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez raconté vos débuts dans la bande dessinée avec en particulier votre personnage culte Edmond le Cochon et comment vous avez été un burlesque contrarié parce que c'est avec un train que vous êtes entré pour de bon dans l'histoire de la bande dessinée. Il faut citer toujours ce mantra qui ouvre cette histoire, parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète, roule un train qui jamais ne s'arrête, c'est le transpersonnage aux mille et un wagons, c'est le dernier bastion de la civilisation. Voilà, c'est comme ça que s'ouvrait en 1982 dans les pages d'À suivre, célèbre mensuel de bande dessinée, cette série mythique, post-apocalyptique, complètement désenchanté, qui est devenu, je le disais en début de semaine, un phénomène mondial, après son adaptation en film par le génial cinéaste coréen Bong Joon-ho. Sauf que je dis 1982, mais en fait c'est dès la création de À suivre, en 1978, que le train aurait dû prendre son élan. Et ce n'est pas vous, Jean-Marc Rochette, qui était prévu pour le mettre en image.
Non, c'était Alexis, un dessinateur aussi burlesque au départ, qui était plutôt un dessinateur comique. Malheureusement, je crois qu'il a fait 12 ou 13 pages. Et puis, il a eu une rupture d'anévrisme et il est mort très jeune, à 32 ans. Donc, Jacques Lop, qui était le créateur de l'histoire, du concept, a été, je crois, c'était un ami, vraiment un ami proche, donc ça l'a secoué. Et donc, je crois qu'il a presque voulu enterrer cette histoire à un moment. Et puis, quelques années après, il s'est mis à la recherche d'un autre dessinateur. Et donc, il a fait des essais avec Skuyten, je pense, avec Rouge.
Régis Loisel aussi.
Régis Loisel.
Que des futurs stars de la bande dessinée.
Voilà. Et puis, ça ne fonctionnait pas. Enfin, du moins, Jacques m'avait dit que ça ne fonctionnait pas. Pour des raisons qui lui sont personnelles, mais avant tout sur la forme du train. Il demandait surtout à ce qu'on fasse le train, en fait. Et les trains qu'on lui a proposés étaient... Celui qui a dû le plus se poser de questions, c'était Skuyten. Mais c'était peut-être un train trop futuriste, trop travaillé au niveau de sa carrosserie, des choses comme ça, qui n'ont pas parlé à Jacques. Et un jour, il s'est mis en tête l'idée curieuse de me demander à moi, en lisant une bande dessinée qui s'appelait « Les déposeurs de chrysanthèmes », qui était très proche de, effectivement, du travail d'un Corben à l'époque. Et j'étais très surpris parce que vraiment c'était, je comprenais pas, c'était comme si on demandait à, je sais pas moi, à un dessinateur comique comme Coluche de jouer dans un film dramatique, quoi. C'était à peu près
ça. Ça donne Ciao Pantin.
Exactement, c'était Ciao Pantin, voilà. Mais c'était un peu Ciao Pantin pour moi, quoi. Je me disais, mais c'est pas du tout mon registre. Et mais quand même, donc il m'avait donné rendez-vous à côté de Boulimier, dans un bar qui faisait l'angle, et il m'a amené son scénario, et il était timide, il m'a dit, je veux pas que tu le lises pendant que je suis là, donc il est allé prendre un café au bar. Pendant que j'ai lu, j'ai tout de suite lu, ce que vous venez de lire, là, et j'ai tout de suite vu que c'était quelque chose qui était très fort, là, le concept étant simple et universel. Et donc je me suis dit, je vais essayer, quoi. Et donc j'ai pensé à ce train, et... Par contre, là, j'ai pratiquement pas cherché, quoi. J'ai trouvé la forme du train. J'ai quand même regardé des trains, un peu tout ce qui se faisait dans les trains du 20e qu'on avait eu. Et alors, il se passe de trains américains, de trains aussi russes, etc. Mais ce qui a été déclencheur, et je m'en suis aperçu après, c'est ce visage du casque spartiate, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'était un casque spartiate qui était devant. Et donc, c'était un train effrayant, vivant. Et quand Jacques a vu ça, il a adhéré. Et il m'a dit, OK, on y va.
Alors, est-ce qu'il avait déjà adapté son scénario ou est-ce que c'est à cause de la forme de ce train qu'il a changé? Parce que quand on regarde, on a pu les voir, ces planches faites par Alexis, on est vraiment dans un train très classique, genre transsibérien, il y a des sièges SNCF, des contrôleurs à moustache. Vous êtes dans quelque chose qui est très différent, mais qui effectivement est plus vivant. Ce train est vivant.
Le train lui-même est vivant. Je crois que Jacques, 5-6 ans étaient passés. Je pense que le mouvement punk aussi était passé. Donc, je pense qu'il avait vu des gens comme Caro. Il avait dû voir des films très durs qui étaient sortis. Notamment un film où il y avait des personnages qui avaient les cheveux rasés. Je sais plus ce qu'était ce film. Et donc, tout ça, ça a dû le marquer. Moi, j'étais dans tempérament, comme on le sait, assez pessimiste. Donc, quand on parlait ensemble, lui, c'était un type assez plus bonhomme que moi. Tout ça a fait que son histoire est devenue beaucoup plus sombre tout de suite. Outre le fait que mon dessin lui-même était plus métallique et plus sombre que celui d'Alexis, qui lui est quand même malgré tout, même dans le réalisme, il avait un petit côté vivant, burlesque, les personnages étaient vivants. Le mien, il y avait déjà un côté un peu... Les personnages étaient quand même assez froids, quoi. Et donc, il a dû adapter un peu son histoire à mon dessin, comme un metteur en scène peut adapter une histoire avec son acteur, en fait.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces premiers dessins? Ce qui est assez étonnant, c'est que vous faites Edmond le Cochon à la même époque, et on vous sent beaucoup plus libre dans le dessin d'Edmond le Cochon, dans un aspect burlesque, et encore le burlesque contrarié, alors que dans votre dessin réaliste, on a l'impression que vous voulez bien faire, et que vous êtes contraint à cause de ça.
J'avais aucune confiance en moi, en fait. J'ai utilisé souvent cet exemple, j'ai l'impression qu'on m'a appris à nager en me poussant dans la piscine. Donc les premières pages, j'ai l'impression que je vois un dessinateur qui se noie. Qui se noie, qui ne sait pas s'il doit aller dans un dessin expressionniste. J'étais jeune, j'avais quand même 25, 26 ans, donc j'étais tiraillé entre Alex Toth et Corben, entre un peu de Giraud. Tout ça, c'était une espèce de soupe du diable.
C'est plus américain, votre dessin, que français. Ben, c'est pas le réalisme à la Giraud, justement.
Non, mais il y a quelques têtes qui sont pleines de petits traits comme Giraud, mais j'étais pas totalement, moi, Giraud, c'était pas, j'admire, mais c'est pas mon truc, quoi.
Giraud, le créateur de Blueberry. Hein,
absolument, ouais. Et donc, et là, pendant un moment, je patine un peu. Alors, bizarrement, malgré tout, parce que quand je regarde ça, il y a un côté un peu primitif flamand, par moment, dans mon dessin. Il y a, comme c'est primitif, comme Petrus Christus, qui était des peintres, qui essayaient de bien faire aussi, ils s'appliquaient. Il y a un côté primitif un peu dans mon truc. Je veux bien faire, je veux, puis j'y arrive pas. Alors, évidemment, il y a un côté un peu pénible, mais il y a aussi un côté... Un côté primitif qui peut être intéressant aussi, parce que c'est sur une fable, quand le dessin est pas trop pro, et ça ajoute quelque chose.
Mais on pourrait même dire que votre dessin est un peu inquiet, et que cette inquiétude participe au climat qu'on ressent quand on est dans le transpersonnage, Jean-Marc Rochette.
Exactement. J'avais de l'inquiétude, et en plus, je savais qu'il y avait des critiques autour de moi, parce que c'était quand même une histoire que les gens auraient voulu faire. Et il y avait des gens qui étaient beaucoup plus brillants dans le dessin réaliste que moi. Il se demandait, j'entendais les bruits, pourquoi c'est lui, quoi, pourquoi, alors qu'il est maladroit, en fait. Et il n'avait pas tort, j'étais maladroit, quoi. Mais je crois que Jacques, cette maladresse, le gênait pas, parce que lui-même était maladroit dans son dessin. Quand on voit son Homolando, c'est très maladroit, et pourtant, c'est une BD qui m'a marqué. Donc cette maladresse, c'était pas forcément... gage de c'était peut-être sa qualité aussi qui a fait tout le début, quoi. Et ça peut-être le fait que ça heurtait le lecteur qui avait l'habitude de la franco-belge souple, se retrouvait avec une histoire qui grinçait dans ce que racontait Jacques et qui grinçait même dans l'image, quoi.
Bah là encore, comme on le disait hier, vous étiez en avance sur votre temps. Puisque 10 ans après, ce sont la nouvelle bande dessinée, ce sont aussi des auteurs qui sont pas forcément des grands dessinateurs, mais qui savent raconter une histoire.
Je pense, oui. Je pense que là, de ce côté-là, ouais. Mais à l'époque, j'ai senti quand même une forme d'agacement chez 5 confrères. Voilà.
Vous avez donné votre propre visage à l'anti-héros du premier volume, Prolof. C'était par souci pratique ou une manière de signer votre dessin?
Pratique, oui, parce que c'était plus facile. Et puis je trouve que ma tête fonctionnait sur le personnage, quoi. J'ai pas pris Belmondo, contrairement
parce à. On parlait de Jean Giraud.
Jean Giraud, pour revenir à lui, j'ai pris mon visage. Ouais. J'étais inquiet quand même. Comme j'avais toutes ces épreuves que j'ai connues en montagne, je l'avais un peu sur le visage aussi, quoi. Donc comme le personnage lui-même, c'est un type qui traverse une période cauchemardesque, voilà, quoi.
Alors, ce qui fait vraiment tenir cette histoire, outre le récit de Jacques Loeb et cette inquiétude du dessin, c'est qu'il y a quand même une grande cohérence. C'est-à-dire qu'il y a un vrai univers qui est créé par les costumes, par les décors, par les objets, par la technologie même. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez conçu comme une sorte de bible, comme on dirait maintenant dans les séries télévisées, ou est-ce que ça s'est improvisé au fur et à mesure, cet univers ?
quand j'ai attaqué ça, je me suis dit, est-ce que je vais vers de la science-fiction américaine, parce que c'était déjà l'époque de Star Trek, etc. Et j'avais été quand même très marqué par le Alphaville de Godard. Et aussi, j'avais été très marqué par le procès de Kafka de Orson Welles. Donc, c'est des choses de science-fiction, mais avec un monde totalement du moment. Et donc, je me suis dit, mais non, ne cherche pas à être trop de science-fiction ou de futuriste, reste ce qui se passe maintenant. Et donc, en fait, il y a peu de recherches. J'ai simplement pris ce qu'il y avait autour de moi, quoi.
Quand on a froid, on met un vêtement épais, genre une parka soviétique.
Voilà. Quand on regarde bien le transpersonnage, c'est une chose qui est tout à fait marquée par son époque, mais qui bizarrement a pas vieilli, contrairement à certaines bandes dessinées où des gens ont été beaucoup plus inventifs et créatifs que moi. Par exemple, Rank Xerox, qui était quelqu'un quand même qui a une virtuosité hors norme, Liberator, et son image a quand même, elle est notée très 80 quand même, avec les couleurs des cheveux, les habillements et tout ça, quoi. Et moi, quand j'étais pas à la mode à l'époque, je me suis pas démodé, quoi.
Dessiner des intérieurs, forcément, quand on est dans un train, la plupart du temps, ça se passe dans le train. La contrainte du huis clos, pour vous, c'était compliqué, ou au contraire, ça vous donnait un cadre pour raconter l'histoire?
Pour moi, c'était plus simple, en fait, parce que à l'époque, j'avais des gros problèmes de perspective. J'étais un dessinateur quand même qui était, comme je vous dis, qui n'était pas virtuose, et je le suis resté, je ne suis pas un dessinateur virtuose. Et donc, j'étais plutôt un portraitiste, hein, j'étais plutôt sur le jeu des acteurs, sur les regards, même si je faisais ça en demi-teinte, malgré tout. Et donc, le fait d'être contraint dans un huis clos théâtral a permis que je m'en sorte. Je pense que je m'en serais pas sorti sur une histoire où il y aurait eu beaucoup de décors externes, quoi.
Et puis, vous qui étiez un homme de la verticalité, puisque vous étiez grimpeur, on l'a raconté précédemment, là, vous étiez dans une histoire d'horizontalité permanente.
Ouais, alors on en parle beaucoup. C'est Bonjour qui m'avait parlé, parce que lui, ça lui posait vraiment des problèmes dans le cinéma, parce que lui, par contre, il n'y avait pas de problème d'extérieur. Mais moi, tout ça m'a servi, en fait, et même au niveau narratif, parce que quand même, finalement, le transpersonnage, c'est une histoire très simple. Hein, c'est quand même une balle dans un canon, quoi. Le personnage part du fond du train et il va arriver au début du train, quoi. Narrativement, c'est intéressant parce que le public, lui, il est tenu par ce récit simple avec un but simple. Et moi, dans le dessin, c'est pareil. J'étais tenu, charpenté même par ce scénario de Jacques. Curieusement, tout le monde me dit que ça a dû être dur. C'était dur, surtout techniquement, mais c'était pas dur par le sujet, quoi.
Mais je crois quand même que vous êtes sorti très, très fatigué de la réalisation de ce livre.
Dégoûté même de la BD, quoi. C'était que j'avais... comme je vous dis, j'étais surtout un dessinateur burlesque. Donc là, j'ai fait une des histoires les plus tragiques de l'histoire de la bande dessinée. Et donc, ça a dû me marquer, quoi, quand même. Je suis sorti de là, j'étais plus très drôle.
Ce qui a été compliqué en plus, c'est que le livre a une grande visibilité. Enfin, il faisait régulièrement la couverture de À suivre pendant sa publication. Quand il est sorti, il a eu des articles incroyables dans la presse. Grand succès critique. C'est pas encore le grand succès public. Ça viendra plus tard. Quand on est un jeune dessinateur, qu'on se sent pas très à l'aise dans ce qu'on fait et qu'on a ce succès-là, comment est-ce qu'on vit ça, Jean-Marc Rochette?
Moi, je pense que j'avais aussi le complexe de l'imposteur. C'est-à-dire que je suis monté sur un cheval qui était le cheval de Jacques. Dans l'histoire du transpersonnage, le numéro un, c'est quand même l'histoire de Jacques Loeb avec un jeune dessinateur qui essaye que l'histoire vienne debout et voit jour. Il y a eu des bons papiers sur mon dessin, mais comme souvent d'ailleurs dans la bande dessinée, les critiques parlent de l'histoire. On remarquera quand on fait une critique de bande dessinée, on raconte l'histoire et à la fin, dernier paragraphe, on dit c'est un très bon dessin ou un dessin un peu charbonneux, mais ça s'arrête là en fait. Pendant longtemps, on a parlé du dessin, c'était le dessinateur et on même le scénariste n'était pratiquement pas noté. Et puis on est arrivé à un moment où c'était l'auteur était le scénariste et on appelait ça un illustrateur, le dessinateur. Voilà. Donc j'ai pris ça aussi. Je me suis dit ok, c'est ce métier, c'est ça quoi. Je suis l'illustrateur d'une histoire, voilà.
Alors, ça vous a tellement dégoûté de la bande dessinée que vous allez arrêter la bande dessinée. Ça, on en reparlera plus tard quand on parlera de peinture. Mais le transpersonnage, c'était un roman graphique, comme on le dira plus tard. En tout cas, c'était conçu comme un livre en soi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lui donner une suite, deux suites même, coup sur coup? C'était presque 15 ans plus tard. Deux tomes d'affilée, L'Arpenteur et La Traversée.
Il s'avère que j'ai eu une période donc du désert très longue et la seule chose où on se souvenait de moi, c'est pour le transpersonnage. C'est-à-dire, Rochette, c'était « Ah oui, qui c'est ?»« Ah oui, d'accord, ok, c'est le type qui a fait le transperce-neige. » Et moi, je me suis dit, bah, puisque je suis connu pour le transperce-neige, allons-y pour le transperce-neige. Puisque je voulais refaire de la bande dessinée, je me suis dit, on va repartir là-dessus. Et donc, j'ai demandé à Benjamin Legrand, qui avait travaillé sur des scénarios de films, parce qu'il y avait eu des demandes déjà avant Banjo, il y avait eu quelques demandes pour des scénarios de films, et il avait travaillé sur un, quoi. Donc, je me suis dit, puis comme j'avais déjà travaillé avec lui, je dis, on va partir là-dessus. Donc, on a fait une réunion, et on a essayé de trouver une suite. Suite qui aurait jamais dû voir le jour, parce qu'au départ, elle n'était pas prévue. Et puis finalement, après réflexion, j'ai pensé qu'il y aurait un deuxième train et il y avait une histoire qui pouvait perpétuer. D'autant plus que moi, j'avais la volonté de... Sur le premier train, c'était quand même l'histoire des injustices sociales, on va dire, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Et après, je voulais parler du mensonge, en fait. Comment on gouverne en mentant. Voilà, en mentant absolument. Et donc, je suis parti sur cette idée-là. C'est pour ça que ça m'a motivé. Et le mensonge est le moteur du 2 et le moteur du 3 aussi, avec le 3 étant l'histoire de l'espoir perdu, de l'espoir. On rêve de choses et voilà.
C'est ça qui est frappant d'ailleurs. Avant même qu'on parle de l'adaptation par Bong Joon-ho qui a relancé la machine encore une fois, si on parle des livres qui ont été faits après le film de Bong Joon-ho, là on va parler de transhumanisme, on va parler de catastrophes climatiques et écologiques, ce qu'on vit en ce moment, le transpersonnage, effectivement, si on prend toutes ces thématiques qui ont été développées, c'est à la fois 40 ans d'interrogation politique en France, et puis c'est aussi une sorte d'autobiographie politique pour vous, Jean-Marc Rochette, de vos propres préoccupations.
Oui, je suis quand même très politique. Plus jeune, j'ai été dans les mouvements écologistes anti-nucléaires, Malville. Moi, j'étais pour une société qui serait moins technologique. J'étais quand même un zadiste, ou un, comme je le fais ici d'ailleurs, hein. Et donc ça m'a marqué. Donc j'ai toujours été marqué. Je sentais les courants froids dans la société. Je sentais le mensonge et je sentais les choses arriver. Donc je voulais faire des choses là-dessus, quoi. Et le transhumanisme, oui, c'est ça. Le terminus, c'est vraiment la base. C'est une descente aux enfers absolue, quoi. Mon idée, c'est si on continue dans ce système-là, où est-ce qu'on peut descendre? Et dans le terminus, on descend très bas, quoi.
C'est-à-dire qu'on retrouve un peu de verticalité après toute cette horizontalité, sauf que c'est pas quelque chose qui va vers les cimes, c'est quelque chose qui va vers le gouffre.
Oui, c'est ça. C'était les cercles de l'enfer de Dante. Et c'était descendre, jusqu'au moment dans le terminus où les femmes se font enlever leurs enfants de l'utérus, parce que l'utérus, c'est pas très sûr. Une machine est plus sûre qu'un utérus. Et là, je me suis dit, si on en arrive là, c'est la fin. Et alors j'ai appris dernièrement que c'est une idée qui commence à apparaître en Chine. Il y a des gens qui se sont dit, c'est quand même un utérus féminin, c'est pas très sûr, on voudrait peut-être faire ça avec une machine.
Alors j'espère que c'est pas parce qu'ils vous ont lu, Jean-Marc Rochette, parce que pas très loin de la Chine, en Corée, un ouais. Jour, il y a un cinéaste qui est en train de tourner un film, et puis pour se délasser, il rentre dans une librairie, il tombe sur une édition pirate du transpersonnage, c'est Bong Joon-ho, et tout d'un coup, lui, il a la vision qu'il peut en faire un film. Comment est-ce que vous avez appris, Jean-Marc Rochette, l'existence de ce projet d'adaptation, et puis quels ont été vos premiers contacts avec Bong Joon-ho?
J'ai appris ça par mon éditeur, qui m'a dit qu'un réalisateur coréen voulait acheter les droits du livre, mais j'ai été surpris, parce que d'abord, je ne le connaissais pas. Il avait fait des choses, mais moi, je ne les connaissais pas. C'est l'année où il a présenté The Host à Cannes. Mais je croyais que c'était un type qui faisait des dessins animés. Et puis surtout, j'étais très étonné qu'un Coréen ait lu cette bande dessinée qui était complètement oubliée. Parce qu'il faut pas... On doit être au début de l'an 2005.
2003-2004.
Ouais. Et la BD est totalement finie, quoi. Et en fait, c'est là où j'ai appris cette histoire qu'il y avait eu un... Parce que je savais même pas qu'il y avait une édition coréenne. Moi, je croyais qu'il avait lu ça, je sais pas où d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai appris ça, quoi. Donc j'étais très étonné, très content. Après, Legrand, qui va souvent à Cannes, parce qu'il travaille dans ce milieu, il a vu The Host et il m'a appelé, je me souviens, en me disant, oula, mais disons, il est super fort le mec, là, en question. Donc voilà, donc j'étais encore plus content. Et puis un jour, il m'a donné rendez-vous vers Maubert. Il m'appelle, il me dit bon, on va se rencontrer là. Il a de l'humour. Vous verrez, j'ai un type asiatique assez marqué. Et donc, je vois ce bon nouveau et ça se passe très bien. Moi, j'ai un anglais exécrable et lui aussi. Donc, déjà, on pouvait se parler que sur des trucs essentiels. Et j'ai senti qu'il voulait le faire, quoi. Vraiment, quoi. J'ai senti un type qui voulait le faire et qui allait le faire, quoi. Et ça n'a pas été si simple, au final. La production n'a pas été si simple, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que c'était un des plus gros budgets coréens. Lui, c'était quand même quelqu'un qui avait fait un gros succès, mais il avait fait un gros... The Host, c'est surtout un succès en Corée, un peu en France, mais quasiment rien à l'étranger. Et le budget était très gros, quoi. Donc, voilà. Mais enfin, il a réussi à monter son affaire.
À quel point vous avez suivi après l'élaboration de ce film, vous lui avez laissé complètement carte blanche ou parce que vous avez participé quand même au film lui-même, on voit vos dessins
à la fin, c'est-à-dire que je me suis plus occupé, il est parti dans son écriture. Il m'a invité une première fois en Corée pour une petite exposition avant le film, parce qu'il est très fort au niveau pour arriver à faire monter un peu la sauce médiatiquement, quoi. C'est un professionnel, et il est professionnel à peu près dans tous les registres du métier, quoi. Et donc là, il m'a parlé un peu en me disant « Attention, tu risques d'être déçu, parce que c'est pas du tout la même chose. » Enfin, il m'avait prévenu déjà qu'il avait beaucoup travaillé là-dessus. Et puis après, j'ai plus entendu parler de lui, et puis un jour, il m'a relancé pour me dire qu'ils allaient tourner ça à Prague, dans les studios Barrandov. Et moi, j'habitais Berlin, donc c'est juste à côté. Je veux dire, Prague et Berlin, c'est à 3 heures de train, je crois. Et donc, je lui avais demandé si je pouvais y aller pour faire quelques dessins de reportage sur le tournage, quoi. C'était mon idée. Et il m'a dit, non, mais tu vas participer parce que je voudrais qu'il y ait un peintre, un personnage qui dessine l'histoire, qui est dans le train, dans les wagons de queue, et qui les dessine, parce qu'évidemment, ils n'ont plus d'appareil photo, ils n'ont plus rien, et donc, et pour garder la mémoire de ce train, pour faire de l'image, il avait eu l'excellente idée d'en faire un dessinateur. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Alors, on n'était pas très d'accord sur la façon de procéder, parce que lui, il aurait voulu que ce soit plutôt un personnage qui fasse des vitraux, des dessins de vitraux, un peu, curieusement. Et moi, j'étais plutôt parti sur l'idée d'un personnage qui, comme ceux qui dessinent dans les camps de concentration, les dessins qu'on connaît dans les camps, ou alors ceux qu'on connaît, il y en a un autre qui est très connu, qui avait travaillé à l'époque du génocide coréen.
Cambodgien, peut-être.
Ouais, cambodgien, pardon. Désolé. Et donc, je suis parti sur des dessins beaucoup plus durs. Et j'ai vu que c'était pas dans son idée, quoi. Mais il m'a laissé faire, il m'a dit, OK, donc, on voit apparaître ces dessins qui sont assez durs, en fait. J'étais parti sur ces dessins concentrationnaires.
Voilà. Notamment parce que ça montre le non-dit de toute cette histoire, qui est l'anthropophagie dans les wagons de queue.
Exactement. En plus, il me précisait, il m'a demandé, maintenant vous me le rappelez, il m'a demandé certains dessins qu'il pouvait pas, filmer. Notamment une scène où le héros, Curtis, attaque une mère avec son enfant, quoi. Et il dit, et les enfants sont plus tendres à manger. Ouais, ça, c'est la fin du livre. Et ça, il voulait le montrer, mais évidemment, ça peut pas se montrer, ce genre de choses. Donc, j'ai toutes les scènes les plus dures et je les ai dessinées. Alors, on les voit apparaître rapidement, mais je pense que pour lui, ça suffisait que ça apparaisse rapidement pour que ça soit là, quoi, dans sa tête.
Et de dessiner des dessins qui ne sont pas destinés à un livre, pour le coup, mais à un film, est-ce que vous les pensiez autrement, ou est-ce que pour vous c'était la même chose qu'être dessinateur ?
Alors l'anecdote, c'est qu'on n'est pas dans la narration, on est dans le dessin pur. Je me suis mis un peu comme un acteur, en fait, j'ai joué le jeu comme si j'avais été dans le train, quoi. J'ai dessiné comme si j'avais vraiment dessiné. Et c'est, alors quand je lui ai amené les dessins, il les a vus. Il m'a demandé de les salir, comme des dessins qui auraient été faits cachés, broyés, salis. Et il me dit, ils sont pas assez sales. Alors je lui dis, salis-les, alors fais-les salir. Et il les a donnés aux décorateurs des tchèques. Et il leur a dit, vous me salissez ça. Alors au départ, ils ont pas trop osé, mais il leur a dit, mais si, allez-y. Et puis moi, j'avais donné, vous pouvez y aller, vous pouvez les brûler, vous pouvez faire marcher dessus, vous faites tout ce que vous voulez. Et donc, les dessins, j'en ai ici encore d'ailleurs, dans l'atelier. Là. Et ils les ont vraiment salis. Et c'est magnifique. En fait, ils ont fait un travail que j'aurais jamais osé, moi, aller aussi loin. Je sais pas ce qu'ils ont mis dessus, d'ailleurs. Mais c'est tout à fait bien fait. Enfin, on les voit à peine, hein, donc c'est parce qu'il est très, il est très, Il est très perfectionniste, donc il a poussé ça alors qu'on les voit une demi-seconde. Donc c'est juste une anecdote que je vous raconte.
Parce que... C'est fait pour l'édition Blu-ray ou DVD.
Voilà, peut, et c'est exactement
où,
ça.
Où on peut faire pause. Alors le film a eu un très très grand succès en Corée, en France, dans le monde entier. Je crois qu'en Corée, vous êtes quasiment devenu une star. Là-bas, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Tout d'un coup, après des années et des années, arrive un immense succès. Et qui, pour le coup, n'est pas seulement critique, mais vraiment...
Oui, la Corée, ça a été un truc assez étonnant, parce que j'étais complètement inconnu. Moi, j'avais disparu des radars de la bande dessinée française, ou alors j'étais un has-been total, quoi. Et j'arrive en Corée, et effectivement, ça a été, ils avaient fait 10 millions d'entrées en Corée. Et alors, ils avaient fait monter la pression sur un dessinateur français, machin, qui arrive de nulle part. J'étais exotique. C'est vraiment très très exotique, donc ça a changé complètement. J'étais un conte de fées qui s'est répandu sur la France, parce que d'un autre côté, les Français ont su qu'il y avait un dessinateur qui avait eu un succès complètement phénoménal là-bas, quoi, avec des télés, on rencontrait le ministre de la Culture, etc. Enfin, c'était incroyable. Bon, en même temps, j'étais un peu comme l'empereur, avec le type qui est derrière lui, qui lui dit, n'oublie pas, je sais plus quoi. Je savais que ça durerait pas. Mais en tout cas, c'était bien agréable pendant ce moment-là, quoi. Et quand je suis revenu en France, ce qui s'est passé, c'est que, au départ, la production française, ne croyait pas du tout, elle voulait pas associer la bande dessinée au film. Je pensais que ça avait aucun intérêt pour la promotion. Et puis finalement, je crois que c'est Bong Joon-ho ou autre, ils ont dit, mais si, ça va intéresser les Français, parce que c'est une BD française, machin, et tout ça. Et donc, ils ont vraiment joué là-dessus. Les médias ont mordu, et cette BD qui était inconnue a profité énormément du succès, et puis même de l'histoire, en fait, de l'histoire elle-même d'une BD inconnue, qui devient un phénomène de société, pratiquement, en Corée. Et en France, ça a fonctionné, et ça a relancé complètement ma carrière, voilà.
Et ça fait redécouvrir justement cette série. C'était un peu mythique, c'était pour initier
voilà.
Les transpersonnages, et c'est devenu une bande dessinée grand public. Ce
qui populaire, était... voilà, tout à fait. D'ailleurs, mon éditeur a été surpris parce qu'il l'avait tiré pas suffisamment. On était toujours en rupture de stock, les gens achetaient. Et alors j'ai pensé même qu'on allait rater le coche, comme on dit en édition, si tu n'arrives plus à fournir les lecteurs, passent à autre chose. Et là, ça avait tellement marqué que les gens attendaient 2 mois pour acheter la nouvelle édition, et puis ça repartait, ça dure de presque 10 ans, quoi.
Après le glacier long dont on parlait lundi, c'est voilà. La longue carrière et la vente longue. Merci beaucoup Jean-Marc Rochette. Demain, on parlera de ce qui s'est passé après le transpersonnage, de votre biotope montagnard, de votre trilogie alpine. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Guillot avec Jean-Marc Rochette. À voix nue, réalisation Benjamin Hu, prise de son Virginie Lorda, attachée de production Daphné Apkral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.